Un grand bonjour à chacun. C'est une joie d'être là ensemble ce matin. C'est une joie encore d'ouvrir la parole ensemble ce matin. Et comme l'a dit Pascal, après-demain, mardi, nous fêterons l'anniversaire des 500 ans de la Réforme. Alors, comme il a dit aussi, l'anniversaire n'est pas une fin en soi. Ce qui est toujours important dans les anniversaires, c'est ce dont on se rappelle et ce que l'on fête. Et donc le 31 octobre 1517, Luther placarde 95 thèses, 95 propositions qui allaient déclencher un mouvement dans toute l'Europe, celui de la Réforme. Et tout ce mois d'octobre, dimanche après dimanche, on a parcouru ensemble 5 propositions qui résument ce message de la Réforme protestante. Ces 5 propositions, on les appelle les 5 sola, parce que chacune de ces propositions commence par le mot sola ou solus. Alors, je vais rappeler moi aussi ces 5 sola et peut-être le développer un tout petit peu plus pour qu'on soit tous à la même page si vous en avez manqué un ou plusieurs. Le premier, c'était sola scriptura, l'écriture seule, qui affirme que la Bible et l'autorité finale pour notre foi et la règle de notre vie. C'est la Bible qui révèle à la fois qui est Dieu et ce qu'il attend de nous. Sola gratia, la grâce seule, qui affirme que la grâce seule de Dieu, c'est-à-dire sa faveur imméritée à notre égard, est à l'origine du salut. Dieu n'est motivé par aucune autre raison que sa grâce et son amour quand il nous sauve. C'est sa grâce et son amour qui sont à l'initiative de notre salut, du salut de l'homme qui est à la fois totalement coupable et complètement incapable de se sauver lui-même. Solus Christus, Christ seul, affirme que l'œuvre de Jésus-Christ, sa vie parfaite d'obéissance, sa mort innocente et sa victoire par la résurrection est le seul fondement de notre salut. Il n'existe aucun autre médiateur entre Dieu et les hommes, aucun autre moyen par lequel nous puissions être sauvés. Sola fide, la foi seule, affirme que la foi est le seul moyen par lequel nous pouvons être déclarés justes devant Dieu, et rien de ce que nous pouvons faire, dire ou penser ne peut nous sauver. Et c'est cette foi en Christ, cette confiance dans ce qu'il a fait à notre place, qui est le seul moyen d'être sauvé. Et enfin, et c'est ce qu'on va voir ce matin, Soli Deo Gloria affirme que, dans ce salut magnifique qu'on vient de résumer, la gloire ne revient qu'à Dieu et qu'à Dieu seul. C'est lui qui a l'origine, c'est lui qui a l'initiative, c'est lui qui fixe les moyens, c'est lui qui rend possible et c'est lui qui accomplit, c'est lui qui fixe le but de notre salut. Comme l'a dit Pascal très justement tout à l'heure, dans notre salut, rien ne dépend de l'homme et tout dépend de Dieu. Alors, toute la gloire doit lui revenir. Et si on devait résumer en une seule phrase, on pourrait dire que le salut est révélé par l'Écriture seule, causé par la grâce seule, accompli par Christ seul, reçu par la foi seule, et que la gloire revient à Dieu seul. Alors ce matin, on va voir ensemble Soli Deo Gloria. Et j'aimerais qu'on voit ensemble, dans la Bible, cette idée que notre salut ne vise que la gloire de Dieu. Dieu nous a sauvés pour célébrer sa gloire. On vit tous pour quelque chose. Et au fond, on vit tous pour la gloire de quelqu'un. Soit on vit pour notre propre gloire, soit on vit pour la gloire de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre, soit on vit pour la gloire de Dieu. Et si vous êtes chrétien ce matin, ou si vous avez des amis chrétiens ce matin, et si vous leur posez la question demain au travail, quel est le but de ta vie? Pourquoi vis-tu? La bonne réponse, normalement, c'est « Je vis pour la gloire de Dieu ». Glorifier Dieu est mon but suprême. Et d'ailleurs, c'est la première de deux des catéchismes les plus connus, celui de Genève, écrit par Calvin, et celui de Westminster. Alors, les catéchismes, c'était des questions-réponses, pour ceux qui, peut-être, sont pas familiers avec ce terme. C'était des questions-réponses qui avaient pour but d'éduquer les gens dans la foi sur plusieurs sujets et d'enseigner ce que la Bible disait de manière ludique. Alors, peut-être, pour certains qui ont fait le catéchisme ici, c'était pas très ludique. Mais, à la base, je pense que c'était un début de recherche. Et le premier catéchisme de Genève, donc, qui est élaboré 20 ans après le début de la Réforme, pose ces questions en premier. Quel est le but principal de la vie humaine ? Réponse, c'est de connaître Dieu. Question, pourquoi dis-tu cela ? Réponse, parce qu'il nous a créés et mis au monde pour être glorifiés en nous. Et c'est bien à raison que nous rapportions notre vie à sa gloire, puisqu'il en est le commencement. Question, et quel est le souverain bien des hommes ? Réponse, cela même. Je vous lis maintenant la première question du petit catéchisme de Westminster qui a été écrit 100 ans plus tard et qui résume ces trois questions en une seule question et une réponse. Question, quel est le but suprême de la vie de l'homme ? Réponse, le but suprême de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Alors remarquez que dans les deux catéchismes, le but principal de la vie de l'homme, c'est glorifier Dieu. Mais une chose intéressante, c'est qu'à chaque fois, glorifier Dieu et trouver en lui son bonheur sont deux choses qui vont ensemble. Et Pascal l'a remarqué tout à l'heure, il a souligné à la fois notre devoir de glorifier Dieu et notre besoin de trouver en lui notre bonheur. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous comment la Bible montre que celui qui est transformé par la grâce de Dieu va vivre à la gloire de Dieu. Celui qui est transformé par la grâce de Dieu va vivre à la gloire de Dieu. Et pour ça, j'aimerais qu'on lise ensemble un texte dans le Nouveau Testament. Si vous n'avez pas de Bible, le texte va s'afficher là-haut. C'est dans l'Épître aux Romains, à la fin du chapitre 11. Je lirai à partir du verset 33, et puis je lirai aussi les deux premiers versets du chapitre 12. Donc, Romains 11, 33, jusqu'à 12, 2. Je vous lis. Combien grandes sont les richesses de Dieu ? Combien profonde sa sagesse et sa science ? Nul ne peut sonder ses jugements, nul ne peut découvrir ses plans. Car qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé de retour ? En effet, tout vient de lui. Tout subsiste par lui et pour lui. À lui soit la gloire à jamais. Amen. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors, j'ai découpé ce texte en quatre propositions simples. Dieu n'est dépendant de rien, mais tout dépend de lui. Parce que Dieu nous a sauvés, nous voulons vivre pour lui en nous laissant transformer par lui. Dieu n'est dépendant de rien, mais tout dépend de lui. Parce que Dieu nous a sauvés, nous voulons vivre pour lui en nous laissant transformer par lui. Alors, juste avant de se plonger dans le texte, J'aimerais le replacer dans son contexte en quelques phrases pour nous aider à mieux comprendre ce que dit ici Paul, qui est l'auteur de ce qu'on a lu. Dans ce livre, dans cette lettre que Paul envoie aux Romains, aux chrétiens de Rome, il leur parle de son désir d'aller jusqu'en Espagne pour pouvoir annoncer l'évangile à ceux qui ne l'ont pas entendu. Et cet évangile, qui veut dire bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, dit Paul. Et donc, la grande majorité de toute la lettre aux Romains, c'est un exposé méticuleux de l'évangile, de sa nécessité. Nous sommes séparés de Dieu et condamnés à la mort éternelle. De sa puissance, la foi en l'œuvre de Christ est le seul moyen d'être sauvé, et de ses répercussions dans nos vies, nous avons été sauvés par Dieu, nous voulons vivre pour Dieu. En somme, dans la lettre aux Romains, Paul explique les cinq solas qu'on a vus pendant tout ce mois d'octobre. Si vous voulez savoir ce que disent les cinq solas, lisez juste la lettre de l'épître aux Romains. Et le passage de ce matin, c'est une charnière en fait dans le livre. Le livre, il a deux grosses sections, et là on arrive à la fin de la première section avec la fin du chapitre 11. Tous les 11 premiers chapitres exposent le contenu de l'évangile. Et la deuxième section, à partir du chapitre 12, expose les effets de l'évangile. Et donc là, Paul parle des conséquences de l'évangile dans notre vie. Parce que l'évangile, nous dit Paul, ce n'est pas une somme d'informations, mais c'est la bonne nouvelle d'une transformation. C'est Dieu qui nous donne une nouvelle vie. Ce n'est pas quelque chose de purement intellectuel, c'est quelque chose de relationnel et de vécu. Dieu ne dépend de rien. Donc après 11 chapitres où Paul expose ce plan du salut, expose cet évangile, à la fin, Paul conclut comment ? Conclut en reconnaissant que tout cela nous dépasse. La sagesse et la connaissance de Dieu nous dépassent. Le salut nous dépasse. Dieu nous dépasse complètement. Il est Dieu. Sa sagesse et son intelligence sont parfaites et sont totales. Lui, rien ne le dépasse. Rien ne le prend jamais au dépourvu. Rien ne l'étonne. Il n'apprend jamais rien. Il n'oublie jamais rien. Dieu sait tout sur tout. Il sait combien de battements de cœur il nous reste. Il sait combien de cheveux il me reste. Ça marche à chaque fois, celle-là. Il sait ce que nous mangerons demain. Et il sait quelles sont nos motivations les plus profondes et les plus secrètes. Nous, notre connaissance est limitée. Nous sommes des créatures à l'intelligence limitée. On peut apprendre bien des choses, mais pas tout. On peut comprendre certaines choses, mais pas tout. Nous ne finirons jamais d'apprendre. Nous serons toujours étonnés par quelque chose de nouveau ou quelque chose qu'on avait oublié. Et avec ça, Paul veut nous montrer que la séparation qui existe entre Dieu et nous, entre qui est Dieu et qui nous sommes, est abyssal. Même la différence entre un grain de sable et l'univers n'est rien comparé à la différence entre qui est Dieu et qui nous sommes. Mais quand on pense à Dieu, il faut se garder de tomber dans deux pièges. Le premier, ce serait de penser qu'on peut comprendre Dieu, qu'on peut percer à jour sa pensée et qu'on peut l'enfermer dans un système humain. Il y aura toujours une part de mystère dans notre rapport à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il est Dieu et que nous ne le sommes pas. Mais un deuxième danger, ce serait de penser que parce qu'on ne peut pas le comprendre complètement, on ne peut pas le connaître vraiment. Oui, Dieu nous dépasse. Oui, nous ne pouvons pas le comprendre complètement. Mais Dieu n'est pas un Dieu lointain. C'est un Dieu personnel. C'est un Dieu qui s'est approché. C'est un Dieu qui s'est abaissé jusqu'à nous. Et comme l'a dit un auteur, nous n'avons pas à comprendre tout pour adorer le Dieu qui sait tout. Et Paul continue, Dieu n'a pas besoin de nous. Alors c'est peut-être un scoop pour vous. Peut-être que ça vous fait mal au cœur. Mais c'est ce que Dieu déclare, il n'a pas besoin de vous. Il se suffit à lui-même. Et là encore, le contraste et la séparation se creusent. Dieu n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin de lui. Dieu n'a rien à recevoir des humains, mais les humains reçoivent tout de Dieu. Dieu est totalement indépendant, alors que nous sommes totalement dépendants. Mais si on y réfléchit bien, les implications sont encore plus belles. Ça veut dire que même si Dieu n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin des humains, il a choisi de les créer par amour. Alors que Dieu n'a pas besoin des humains, il a choisi de les sauver par amour. Dieu peut exister sans nous, mais nous, comme l'a rappelé Pascal tout à l'heure, nous ne pouvons pas exister sans Dieu. Et le verset suivant montre que si Dieu ne dépend de rien, tout dépend de Dieu. Tout provient de lui, tout subsiste par lui et tout est pour lui. Dieu est la source de toute chose et toute chose subsiste par lui. En dehors de sa volonté et de sa puissance, rien n'existe. Et la Bible nous dit que les choses n'existent pas par elles-mêmes et pour elles-mêmes, mais qu'elles dépendent toutes de Dieu. Et on l'a rappelé ce matin, Dieu est glorieux. Tout ce qu'il fait reflète sa gloire. Tout ce qu'il accomplit montre combien il est puissant, combien il est beau, combien il est rempli de grâce. Et la Bible nous dit que quand on regarde les cieux, les cieux racontent sa gloire. Quand on regarde la création, on est émerveillé par sa beauté. Peut-être vous êtes fait la réflexion en venant ce matin ou en roulant la semaine dernière, combien étaient beaux ces arbres colorés des mille couleurs de l'automne. Profitez-en, ça n'a pas duré. Mais cette beauté de ces arbres nous rappelle et reflète la beauté de Dieu. Et un des réformateurs les plus célèbres, celui peut-être qui a parlé le plus de la gloire et de la beauté de Dieu, Jean Calvin, a dit « De quelque côté que nous portions le regard, nous apercevons une petite portion, ou au moins une étincelle de la gloire de Dieu. » Et la Bible nous dit que Dieu est digne de recevoir la gloire parce qu'il a tout créé. C'est aussi le but pour lequel il a tout créé. L'homme, comme le reste de la création, a été créé pour la gloire de Dieu. Nous avons été créés par lui et pour lui. Nous avons été sauvés par lui et pour lui. Nous avons été créés pour sa gloire et nous sommes sauvés pour sa gloire. Alors peut-être que certains, en entendant ça, se disent « Dieu, c'est un mégalo, il est narcissique ». Peut-être que certains le pensent, moi, je l'ai déjà entendu dans mes conversations. Alors, quelques réponses rapides. Si Dieu est celui qui donne la vie et qui la maintient, alors il est le seul digne de recevoir la gloire. Si Dieu est le plus puissant et le plus grand et que rien ni quiconque n'est comparable à lui, alors oui, il est le seul digne de recevoir la gloire. Et enfin, s'il est le seul qui puisse nous offrir le bonheur et l'amour que nous recherchons, alors il serait cruel et méchant de proposer autre chose que lui-même. Alors, il est le seul digne de recevoir la gloire. Et un théologien l'a dit mieux que moi, Dieu ne cherche pas notre adoration parce qu'il en a besoin, mais parce que nous en avons besoin. On est au début du chapitre 12. On est à cette charnière où Paul passe de la vérité de l'évangile aux conséquences de l'évangile. Et ça, c'est une réalité qu'on voit dans toute la Bible. Ce que l'on sait de Dieu appelle à une réponse de notre part. Aucune neutralité n'existe. On ne peut pas être placé devant Dieu et dire ou feindre l'indifférence. La manifestation de Dieu appelle une réponse de l'homme. Et cet évangile, cette puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit, que Paul a exposé pendant les 11 premiers chapitres, doivent pousser ceux qui ont reçu cette grâce, dit Paul, à offrir leur corps comme des sacrifices vivants. Alors, je sais que ça peut sonner bizarre pour certains, s'imaginent quelque chose avec du sang direct, quelque chose de glauque. Alors, j'explique en deux mots. Dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, les sacrifices étaient choisis par Dieu comme faisant partie du culte que lui rendait son peuple. C'était une marque de l'adoration rendue par le peuple à Dieu et qui montrait la relation entre Dieu et les hommes et leur dévotion. Et ici, Paul, il nous dit que tout a changé à partir du sacrifice de Christ, de sa mort, de sa résurrection. Il nous dit que c'est toute notre vie qui est un culte rendu à Dieu. C'est toute notre vie qui témoigne de notre adoration. Et ici, il ne parle pas du corps comme la partie physique de l'être, mais comme l'engagement de tout ce que nous sommes. C'est tout notre être, toute notre vie, dans tous ses aspects que l'on consacre à Dieu. Et c'est ça que ça veut dire saint. On parle d'un sacrifice vivant qui est saint. Saint, ça veut dire mis à part pour Dieu, consacré à Dieu. Et là, dit Paul, on n'offre pas seulement à Dieu ce que l'on a, mais on offre à Dieu qui l'on est. Et Paul donne deux motivations pour encourager les chrétiens à vivre pour Dieu. La première, c'est la reconnaissance. Il dit, c'est à cause de l'immense bonté de Dieu, à cause de sa grâce, que nous voulons vivre pour lui. Notre adoration, notre obéissance sont la réponse à sa grâce et pas la condition à sa grâce. Dieu nous a délivrés alors que nous étions esclaves, nous a retrouvés alors que nous étions perdus, ramenés à la vie alors que nous étions morts par pure grâce. Et c'est la première des motivations. La deuxième, il dit dans le texte que c'est une démarche raisonnable. Au vu de cette immense bonté, de cette immense grâce, offrir notre vie en réponse, c'est tout ce qu'il y a de plus raisonnable. Il dit, ce serait fou de réagir autrement. C'est un peu comme si vous étiez dans une maison en flammes, que vous attendiez que l'on vous secoure, que finalement, alors que vous êtes en train de suffoquer, peut-être vous êtes dans le coma, un pompier vient, vous prend, vous ramène à l'extérieur et vous sauve. Il vous réanime. Et vous, la première chose que vous faites, c'est que vous lui mettiez un coup de pied dans le ventre et que vous lui crachez à la figure. Ce serait fou de faire ça. La seule chose raisonnable au salut, c'est la reconnaissance. Et si c'est notre vie entière qui doit être vécu pour la gloire de Dieu, qui doit être un culte continuel à la gloire de Dieu, alors nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de domaine qui soit réservé à Dieu et des domaines qui nous soient réservés. On ne vit pas la semaine pour nous-mêmes et le dimanche matin pour Dieu. Tout ce que nous faisons, quel que soit le domaine, quel que soit le moment, tout est pour la gloire de Dieu. Pas seulement quand on chante le dimanche matin, mais aussi quand nous travaillons le lundi, quand nous mangeons le midi, quand nous regardons un film ou une série le soir, quand nous sommes à l'entraînement de foot le samedi. Notre travail, nos relations, nos occupations, nos hobbies, tout doit être à la gloire de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons dire notre reconnaissance à Dieu et nous voulons dire que Dieu est glorieux. Comment ? C'est ce que développe Paul, la piste que nous donne Paul dans le dernier point que l'on voit ce matin, en nous laissant transformer par Dieu. On l'a déjà dit, la grâce qui sauve, c'est la grâce qui transforme. Celui qui est transformé par la grâce de Dieu va vivre à la grâce de Dieu. Dieu ne nous sauve pas et ensuite nous dit « bon courage, salut, à la prochaine ». Dieu nous accepte comme nous sommes, mais ne nous laisse pas comme nous sommes. Dieu nous dit « venez comme vous êtes ». Ça vous rappelle quelque chose ? Mais il ne nous dit pas « restez comme vous êtes ». Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est le slogan de McDonald's. Et c'est vrai qu'en sortant de McDonald's, on n'est pas aussi non plus les mêmes. Mais Dieu nous transforme pour le meilleur, pour McDonald's. Je vous laisse le soin de tirer votre propre conclusion. Nous vivions pour nous, nous vivons pour lui. Mais Dieu ne nous demande pas l'impossible. Ce qu'il nous demande de faire, il nous rend capables de l'accomplir. C'est lui qui renouvelle notre intelligence pour que nous sachions ce qui lui plaît. Dieu ne nous laisse pas deviner comment lui obéir ou comment lui plaire. Il nous donne sa parole et son esprit pour nous guider. Il dit aussi, Paul, ici, que nous offrons nos sacrifices vivants un sacrifice sain et agréable à Dieu. Nous sommes déjà agréés par Dieu. Nous lui plaisons déjà. Nous lui plaisons parce qu'il a choisi de venir. Ce n'est pas parce que nous lui plaisons qu'il nous sauve. C'est parce qu'il nous a sauvés que nous lui plaisons. Nous ne marchons pas tous les jours en nous demandant « est-ce que je vais plaire à Dieu ?» Nous marchons tous les jours en sachant que l'on plaît déjà à Dieu. Que son regard de père est un regard d'amour, plein de compassion, plein de grâce. Que nous n'avons pas à prouver ou à faire des choses pour qu'il nous aime. Mais parce qu'il nous aime, nous voulons agir en reconnaissance. C'est intéressant que Paul, ici, il utilise deux verbes à l'impératif. L'un est actif, l'autre passif. L'un désigne ce que nous devons faire et l'autre ce que Dieu fait en nous. D'une part, Paul nous invite à refuser ce que le monde dit et à accepter ce que Dieu dit. Et les chrétiens ne sont pas appelés à vivre comme le monde veut, mais comme Dieu le veut. Notre société nous informe, notre société nous façonne sur ce que nous devons faire ou penser. À la radio, à la télé, sur Internet, dans les journaux, tous les jours. Minute après minute, tout ce que nous entendons, tout ce que nous regardons, tout ce que nous consommons, nous façonne et nous transforme. Et ici, Paul nous invite Dieu à laisser Dieu nous transformer, transformer notre manière de voir pour transformer notre manière de vivre. Une fois, j'étais en covoiturage et la personne me demandait ce que je faisais. J'ai dit, d'ailleurs c'est une des premières questions qui tombe, et quand j'ai dit que j'étais pasteur, cette personne m'a demandé tout de suite, première question qui est venue juste après, « Alors, qu'est-ce que tu as le droit de faire ou de ne pas faire ?» Pour cette personne, et pour Nombreux de mes amis, nombreux peut-être de nos voisins, de nos collègues, la vie chrétienne se résume à une liste séparée en deux colonnes, autorisé et interdit. Mais je pense que beaucoup de nos voisins, de nos contemporains, voient le christianisme ainsi, parce qu'ils voient aussi beaucoup de chrétiens vivre ainsi. Et je ne dis pas que l'obéissance n'est pas importante à la vie chrétienne, au contraire, c'est ce que dit Paul ici. Nous devons laisser Dieu nous renouveler pour discerner ce qui lui plaît, pour pouvoir lui obéir. Mais le problème de l'homme est plus profond. Le problème de l'homme, nous dit Paul dans Romains, avant d'être un problème d'obéissance, c'est un problème d'adoration. Et d'ailleurs, ce passage-là, le début du chapitre 12, c'est un parallèle au début du chapitre 1. Si vous n'avez pas lu, je vous invite à le lire. Mais au début du chapitre 1, Paul argumente que le refus des hommes d'adorer Dieu, l'idolâtrie, les a menés à la désobéissance. C'est parce que l'homme refuse de reconnaître Dieu comme Dieu, parce qu'il refuse de trouver en lui son bonheur, qu'il lui désobéit. D'abord un problème d'adoration, ensuite un problème d'obéissance. Et dans ce passage, ce matin, on voit un renversement. Le rétablissement d'une juste adoration, le renouvellement de notre intelligence amène à l'obéissance. Il ne faut pas obéir à Dieu pour l'aimer. Il faut aimer Dieu pour lui obéir. Je cite encore Jean Calvin. Si les hommes ne trouvent pas en Dieu leur bonheur, ils ne se consacreront pas à lui de façon vraie et sincère. Et pour conclure, j'aimerais poser une question ce matin à chacun. Est-ce que je vis pour moi ou est-ce que je vis pour Dieu? Est-ce que je recherche ma propre gloire ou est-ce que je recherche la gloire de Dieu? Est-ce que vous connaissez ce jeu de tri de forme? Souvent c'est un cube ou une planche avec des trous en forme de croix, en forme de cercle, en forme de carré, vous voyez ce dont je veux parler? Normalement, vous y avez joué il y a très longtemps. Ou alors si vous avez eu des enfants récemment. Alors c'est un jeu pour enfants où le but c'est d'insérer dans les formes en creux les objets que l'on donne à l'enfant. Et ne pas vivre pour Dieu, nous dit la Bible, vivre pour soi, c'est un peu comme essayer de mettre des cubes dans des trous en forme de croix. Ça ne marche jamais et ça finit toujours par nous frustrer. Et le problème fondamental de l'homme, c'est qu'il vit pour autre chose que ce pour quoi il a été créé. Le monde nous dit « épanouis-toi, tu n'as pas besoin de Dieu ». La Bible nous dit « tu as besoin de Dieu pour t'épanouir ». Vous vous souvenez, au tout début, j'ai parlé de ces deux catéchismes et j'ai montré comment les deux liaient le fait de glorifier Dieu dans notre vie et de trouver notre bonheur en lui. Si nous avons été créés par Dieu et pour Dieu, alors rien d'autre que lui ne pourra nous satisfaire vraiment. Dieu ne nous demande pas de choisir entre sa gloire et notre bonheur. L'un va avec l'autre. C'est en recherchant sa gloire que nous trouverons notre bonheur. Et quand Dieu nous sauve, il ne nous donne pas un but nouveau pour notre vie. Nous retrouvons seulement ce pourquoi nous avons été créés. C'est comme si nous errions sur la terre en souvenir d'un pays lointain que nous aurions quitté et que maintenant nous avons retrouvé notre vraie patrie, que nous sommes rentrés chez nous, que nous avons retrouvé ce qui nous manquait, sans lequel nous n'étions pas complets. Je conclue, je laisse la parole à Jean Calvin pour une dernière fois ce matin. Le bonheur suprême et le but de notre vie se trouvent dans la connaissance de Dieu. Jean Calvin n'a rien inventé. Martin Luther n'a rien inventé. Les réformateurs n'ont rien inventé. Ils n'ont fait que redire, peut-être dans une période où la majorité l'avait oublié, ce que la Bible affirmait. La Bible affirme que notre bonheur se trouve dans la connaissance, c'est-à-dire dans la relation avec Dieu. Je vais prier. Seigneur, merci, parce que ta parole nous dit qui tu es. Tu ne nous as pas laissé errer ou deviner ce qui faisait ta puissance et ta gloire, mais tu nous l'as révélé dans ta parole. Et merci Seigneur, parce que tu ne dépends de rien. Tu ne changes jamais. Et merci de nous rappeler que nous dépendons de toi et que sans toi, nous ne sommes ni ne pouvons rien. Seigneur, aide-nous à offrir nos vies, à ne laisser aucun domaine de notre vie caché. Aide-nous à mettre en lumière ce que peut-être on a laissé de côté, notre jardin secret que l'on se réservait pendant des années. Et qui nous fait de la peine parce que tu nous montres que tout t'appartient, même ce domaine en particulier. Seigneur, révèle ce qui, dans notre vie, n'est pas à ta gloire. Quelle attitude, quelle habitude devrait changer ? Aide-nous à voir comme tu vois pour vivre comme tu veux, Seigneur. Transforme-nous, aide-nous à nous laisser transformer par toi, à rejeter ce que le monde dit et accepter ce que toi tu dis. Aide-nous, Seigneur, à vivre pour ta gloire et pour ta gloire seule. Amen.